Nous sommes trois professionnels virtuels et en isolation en éducation.
Jennifer Mansell-Davies,
Mylène Brassard
et Vicky Fauteux sommes toutes chez nous, derrière nos écrans, dans cette nouvelle réalité sans précédent.
Dans cette série en confinement, nous parlerons de sujets tels que le lien affectif, la planification, l'évaluation et bien plus encore.
Et cette fois-ci, dans le contexte de l'enseignement à distance.
Salut tout le monde!
Allô Mylène!
Allô Mylène!
Et aujourd'hui, allô Mylène, allô Mylène, on n'est pas trois, nous sommes quatre qui voulons nous battre contre trois qui ne veulent pas. Alors, la quatrième personne de notre quatuor aujourd'hui, je vous présente Marie-Josée Lévesque.
Hey, bonjour Jennifer, bonjour Vicky, bonjour Mylène.
Alors, Marie-Josée, qui es-tu et que fais-tu?
Ben, moi, j'enseignais au conseil scolaire Via Monde pendant de nombreuses années. Puis maintenant, je suis accompagnatrice au service pédagogique du conseil scolaire Via Monde.
Alors, on est chanceuse parce qu'en fait, tu es dans notre équipe. Nous sommes dans ton
surprise.
Équipe. Alors aujourd'hui, avec toi, le sujet de la conversation, ça va être la classe inversée. Si on se pose la question, c'est quoi la classe inversée?
Bien, je te dirais que la pédagogie inversée, comme on l'appelle souvent, c'est une stratégie pédagogique qui consiste en fait à concentrer le temps de classe pour réaliser les travaux pratiques en enlevant, et là je dis en enlevant avec des guillemets, là, en enlevant le temps requis pour l'exposé qu'on appellerait peut-être plus magistral. Puis en réalité, c'est pas tant la pédagogie qui est inversée, mais davantage la démarche d'enseignement. Fait que vous autres, mesdames, je sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai été à l'école dans mon jeune âge, j'ai eu un seul modèle d'enseignement, puis appelons-le ce modèle-là traditionnel. En gros, il y a un enseignant, qui donne un cours magistral, il explique son sujet, sa matière, puis après, on fait des exercices en classe, puis on a des devoirs à la maison qui généralement étaient d'autres exercices similaires à ceux qu'on avait vécu en classe. Est-ce que vous avez vécu la même chose techniquement?
Pour moi, on était à la même école.
T'as vu? C'est ce que je pensais en fait, mais le problème avec cette méthode-là, ça serait qu'une fois rendu à la maison, quand on éprouvait de la difficulté, c'est qu'on n'avait plus accès à notre enseignant pour répondre à des questions. Donc, à ce moment-là, on le sait puis on le voit maintenant dans nos salles de classe. Là, qu'est-ce qui se passe quand l'élève ne sait pas? Soit il abandonne, soit il fait carrément pas son travail parce qu'il n'a rien pigé de ce qui s'était passé en classe quand on enseignait. Ou, en fait, il y a très peu d'élèves qui vont réellement se donner des moyens de réussir puis de trouver des solutions puis de parvenir à faire leur travail. Puis la classe inversée, en fait, répond à ce besoin-là de l'élève, parce qu'il y a deux étapes qui vont succéder. La première étape, c'est que l'élève apprend la leçon chez lui. Il peut le faire sous différentes formes. Ça peut être visionner des vidéos. C'est souvent le moyen qu'on utilise à l'élémentaire. Écouter des balados. Ça serait vous, madame. Utiliser diverses applications numériques. On peut aussi penser à des lectures, peut-être, pour les plus vieux du secondaire. Puis, la deuxième étape, c'est en classe. L'élève revient avec ses savoirs et tente d'appliquer les connaissances acquises à travers des résolutions de problèmes, tantôt plus complexes, des variétés d'activités riches de sens pour les élèves. Donc, on comprend que dans ces conditions-là, l'attention est plus centrée sur l'enseignant, mais sur les élèves qui vont pouvoir interagir, s'aider mutuellement. Puis, ça permet à l'enseignant de vraiment focusser sur les élèves en difficulté.
Et Marie-Josée, je me demande, parce qu'on en a parlé dans une autre formation aujourd'hui aussi, puis on parlait beaucoup de ce qui se passe à la maison puis ce qui se passe en classe. Comment est-ce que ça pourrait être bénéfique en ce moment-ci avec le confinement puis l'enseignement à distance?
Bien, en fait, c'est pas du tout une nouvelle chose, là. La classe inversée, c'est pas un truc qu'on a inventé pendant le confinement. Les milieux scolaires en parlent depuis plusieurs années, davantage depuis, je dirais peut-être, je ne sais pas pour vous, là, mais depuis le début des années 2000 peut-être. Il y avait des travaux qui étaient sortis d'un certain professeur de physique, si je me souviens bien, de Harvard. C'était, je pense son nom, Monsieur Eric Mazur, qui lui aussi remettait en question bon, le modèle traditionnel, puis avait mis en avant cette... cette notion-là. Puis en fait, depuis bien longtemps, on sait, hein, les profs de littérature à l'université, de philosophie, ont adopté cette stratégie-là pour leurs élèves qui sont un peu plus vieux. Mais on voit aussi un engouement certain pour l'élémentaire, aussi pour la classe inversée en ce moment. Peut-être parce qu'on a été propulsés un peu malgré nous vers d'autres avenues, celle de l'enseignement virtuel, mais on a dû sortir de notre zone de confort, puis en fait, on s'est retrouvés à chercher d'autres alternatives pour donner nos cours. Puis en fait, c'est sûr que la classe inversée entre dans tout ça, puis ça nous amène à des nouvelles méthodes, puis à une curiosité pour cette classe inversée. Puis moi, j'ai le goût de vous dire, mais si on pouvait faire mieux autrement, pourquoi pas se lancer, en fait?
Et puis, je crois que le temps qu'on a avec nos élèves est tellement limité ces jours-ci. Oui. On a une demi-heure en direct avec les élèves. Alors, il faut vraiment maximiser le temps qu'on a. Est-ce que tu pourrais donner un exemple d'un concept peut-être à l'élémentaire, parce que tu avais parlé d'un prof de physique, mais peut-être un concept à l'élémentaire qu'on pourrait présenter aux élèves de cette façon? Et puis, quel type d'activité de prolongement ou de consolidation est-ce qu'on pourrait faire pendant le live?
Bien, en fait, l'idée, c'est que, tu l'as bien dit, on veut maximiser notre temps en ce moment parce qu'on est en virtuel. Les enseignants de notre conseil ont 30 minutes avec nos élèves, avec toute la classe. On veut vraiment faire en sorte que ce temps-là soit utilisé de façon efficace. Donc, en synchrone, comme il y a 30 minutes, on veut utiliser le temps pour pas nécessairement donner une leçon magistrale, parce qu'on s'entend que c'est pas une utilisation efficace si on fait ça. Mais si on donnait le cours avant, par exemple, une leçon élémentaire, les leçons de maths, sont souvent préconisés pour la classe inversée parce que ça permet vraiment de faire des petites séquences d'enseignement en classe inversée. Donc, on pourrait choisir de faire une vidéo sur les fractions, par exemple, ou on pourrait donner une petite leçon grammaticale qui pourrait être donnée en vidéo avant cette leçon-là d'enseignement virtuel. Puis, quand on revoit les élèves, ben là, ils sont prêts à aller un petit peu plus loin. L'enseignant, il est là pour répondre à leurs questions. Il y aurait aussi l'occasion de faire le point sur leurs apprentissages, de ce qu'ils ont compris, leurs défis. Ça serait aussi un bon moment pour l'enseignant de poser des questions complexes qui vont amener l'élève à se questionner, à approfondir ses connaissances pour poursuivre ses apprentissages en asynchrone quand il est tout seul à la maison avec ses parents ou avec son ordinateur. Donc, je venais à l'idée que vraiment, pour moi, ça résonnait la classe inversée encore plus dans un contexte maintenant. Je ne sais pas si vous, ça vous fait le même impression. Hein?
Oui, absolument. Puis souvent, les profs se plaignent que pendant ces 30 minutes-là, on n'a pas assez de temps, on ne sait pas, c'est difficile d'aller prendre le pouls de chacun des élèves, c'est difficile d'avoir des données ou des observations sur chacun des élèves. Mais ça, ça nous permet de le faire parce que comme les enfants vivent la leçon à l'extérieur du live, dans le live, on peut préconiser, comme tu dis, la résolution de problèmes, ça peut être la collaboration, le travail d'équipe, on pourrait aller beaucoup plus loin au niveau du support qu'on peut offrir aux élèves que juste faire le magistral pendant le 30 minutes.
Puis aussi, moi, je trouve que du point de vue de l'élève, c'est vraiment intéressant aussi parce que eux autres, ils peuvent avoir accès à ce matériel-là quand ils veulent, où est-ce qu'ils veulent. Ils peuvent le répéter. Ils peuvent faire, par exemple, si c'est une vidéo, ils peuvent le réjouer. Ils peuvent, si c'est une lecture, ils peuvent le relire. Alors ça rend ça intéressant parce que, honnêtement, le 30 minutes, l'élève qui est assis devant son ordi présentement, il va peut-être probablement décrocher, tandis que s'il peut prendre une pause puis de revoir la vidéo, ça va rendre l'apprentissage bien plus intéressant aussi.
Ça offre beaucoup de possibilités aussi ou beaucoup d'appui pour nos élèves qui sont en difficulté, sachant que justement, ils peuvent écouter la leçon sans distraction à la maison, faire rewind, rejouer. Mais aussi pour le parent, sachant qu'en ce moment, le parent, c'est le soutien numéro un de l'élève à la maison. Alors, s'il vit la leçon, bon, on s'entend de tout dépendant du support puis tout dépendant du temps qu'on a, mais si le parent voit comment faire avec l'enfant, c'est beaucoup plus simple pour l'appuyer après lorsque c'est le temps des exercices ou c'est le temps d'aller plus loin par rapport à ça.
Bien, ça me permet en fait de souligner le fait que la classe inversée permet vraiment une grande différenciation pédagogique. En fait, Vicky, tu en as un peu parlé, l'élève peut réécouter la leçon autant de fois qu'il le souhaite. Mylène aussi, tu avais soulevé, tu peux retourner en arrière, réécouter. « Ah, oh, attends, j'ai manqué un mot, je reviens. » Ça permet de revisionner aussi dans une semaine, dans deux semaines, le même concept, parce que tu as oublié ou tu fais des exercices différents, puis tu dis « Oh, attends un peu, j'ai déjà eu ça de mon prof, laisse-moi retourner voir qu'est-ce qui s'est passé. » Donc là, quand l'élève a revu plusieurs fois le même concept, ça arrive qu'il est en classe, puis vraiment, quand il va arriver, il va être prêt à vraiment faire des apprentissages qui sont significatifs, qui sont plus poussés, avoir des questions qui sont déjà là dans sa tête, en fait, partir de ce qu'il a compris par lui-même à la maison, puis aller chercher des réponses, en fait, à ce qu'il ne sait pas avec son enseignant, ses camarades de classe, puis là, entre toute l'idée de collaboration, évidemment.
Puis, ayant été un parent d'un enfant en difficulté à l'école élémentaire, j'ai vécu les larmes et la morve et l'enfant couché en dessous de la table dans la cuisine. Et même comme enseignante, comme parent, ça m'aurait aidé d'avoir, c'est ce que Madame Sophie avait dit en classe, à rejouer, à voir la façon dont elle l'avait expliqué. Puis je trouve que comme enseignant, nous avons une grande responsabilité de rendre ce qui se passe en classe transparent. Parce que, tu sais, pour améliorer la confiance du public dans ce qu'on fait en salle de classe, ils ont besoin de voir ce qu'on fait. Puis on voit souvent sur les médias sociaux des parents qui se plaignent que oh, les devoirs n'ont même pas de sens, comme c'est pas de vraies mathématiques, c'est pas comme ça que moi je l'ai appris. Mais s'ils voyaient ce qu'on fait, puis tout ce qu'il y a derrière ce qu'on propose comme devoir, parfois comme consolidation, je pense qu'ils auraient une meilleure compréhension de ce qui se passe dans nos salles de classe.
Jen, un commentaire. Moi non plus, je n'ai pas appris les maths de cette façon-là, mais je l'enseigne de cette façon-là présentement. Fait qu'on a tout besoin de s'ajuster. Puis une autre idée que j'aimerais ajouter, c'est que souvent, lorsqu'on parle de la pédagogie inversée, c'est qu'il ne faudrait pas aussi oublier que l'enseignant a une responsabilité de préparer les élèves. C'est pas juste « vas-y, regarde cette vidéo-là, puis reviens-moi avec tes questions ». Non, essayez de les guider. Alors, en fait, ça prend déjà une préparation même avant de leur donner le matériel qui est requis. Et après ça, c'est un petit peu comme une planification à deux étapes en disant que je vous prépare, voici ce que vous devrez porter plus attention et revenez-moi avec des questions. Puis là, après ça, lorsque vous êtes en direct, là, dans notre contexte actuel, c'est comment préparer, comment être prêt avec les activités aussi.
Bien, tout à fait, ça me parle beaucoup ce que tu dis, Vicky, parce qu'en fait, il y a une citation quand j'avais fait une auto-formation justement sur la classe inversée qui disait qu'il y a autant de modèles de classe inversée que d'enseignants renversants. Donc, c'est pas nécessairement juste un modèle, on peut l'adapter à notre style, à nos façons de faire, mais c'est toujours important de bien communiquer avec les élèves, qu'est-ce qu'on fait, où on s'en va, c'est quoi les attentes, puis que tout soit clair pour les élèves. Donc, on les laisse pas regarder une vidéo sans leur dire qu'est-ce qui est attendu ou sans les rassurer, en fait, que le contenu de la vidéo va être revu en salle de classe. Donc, c'est important, surtout pour les élèves qui ont, par exemple, qui font de l'anxiété. Donc, ça peut les rassurer. Puis comme ça, ils vont pas avec une pression à la maison qu'ils doivent tout faire par eux-mêmes. C'est des choses qui vont être revues en salle de classe par le biais d'activités. Donc, c'est vraiment un départ à la leçon, mais c'est pas une fin en soi.
Moi, quand je pense à la question que tu as posée au début, Marie-Josée, et puis en passant, c'est nous qui posons les questions. Hein? la question, est-ce que nous, on avait vécu le modèle traditionnel? Puis quand je pense à mon école élémentaire, ben, c'était les années 90 et la technologie la plus avancée qu'on avait dans l'école, comme mon père aime dire, c'était la MOP. Et c'est le concierge qui le passait. Je pense à toutes les possibilités avec la technologie qu'on a de nos jours qui nous permettent de faire un enseignement, de faire la classe inversée de façon intéressante pour les élèves et de façon multimédia. Parce que si vous aviez envoyé une lecture à faire à la maison, c'est la veille d'une activité en salle de classe, ça n'aurait pas aidé mon enfant plus que juste envoyer les devoirs parce qu'il avait une difficulté d'apprentissage et il lisait avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Alors, est-ce que tu aurais des outils à nous suggérer, des plateformes, des outils technologiques pour la classe inversée?
Je te conseillerais une seule chose. Utilise ce avec quoi tu es à l'aise. Parce qu'on le sait, si la technologie, si tu dis, hey, moi, je veux faire des animations avec Powtoon, mais toi, tu n'as jamais fait ça. Bien, il y a fort à parier que tu vas prendre beaucoup de temps pour faire ton animation puis tout ça, puis ça se peut que ça soit vraiment agréable tout ça, mais ça se peut aussi que tu trouves ça lourd puis que tu n'aies pas le goût de recommencer demain matin parce que tu as tellement pris de temps sur la première vidéo. Donc, l'idée, ce serait vraiment de partir avec ce sur quoi tu es confortable puis la technologie qui est familière pour toi et pour tes élèves. Donc, en ce moment, à notre conseil, on utilise tout le monde Microsoft Teams. Donc, ça serait facile de continuer avec une plateforme comme ça pour déposer nos vidéos. Puis, on pourrait partir de Stream pour faire nos vidéos. On peut télécharger nos vidéos dans Stream. Donc, ça pourrait être des vidéos qu'on a prises sur YouTube qui nous plaisent ou ça pourrait être des vidéos que nous-mêmes, on a créées. Là, avec notre ordinateur, avec notre téléphone portable, peu importe la technologie. Puis, ça pourrait être ça qu'on offre aux élèves. En fait, l'idée, c'est vraiment que l'élève soit à l'aise. Mais il y a aussi des profs avant le confinement qui utilisaient 600, la classe dojo, les cours du EAV. Tout ça, c'est des plateformes qui sont valables. En fait, c'est vraiment au choix de la personne qui l'utilise.
Te souviens-tu, Jen, l'enseignante qui avait maximisé sa présence en salle de classe dans ses centres avec la classe inversée? Alors, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait différents centres dans la classe. Chacun des centres avait une vidéo qui expliquait la tâche et les concepts liés à ce qu'il devait faire à chacun des centres. Fait qu'au lieu d'être là une fois puis d'avoir sept centres, elle était là sept fois dans chacun des centres, plus elle avait une table où elle travaillait avec les élèves en petits groupes.
Oui, puis il y avait même, il y avait des centres qui les préparaient pour les autres activités. Alors, c'était vraiment une introduction au solide géométrique, puis on dit bonjour à Karine. On l'avait mentionné la semaine dernière aussi, elle est vraiment mise en vedette sur toute la classe. Mais, tu sais, les élèves prenaient une première conscience de qu'est-ce que c'est qu'une sphère, qu'un cube, ainsi de suite. Et puis, les autres activités, c'était au sujet de ces solides-là.
Rien n'empêche que ça, là, on était en présentiel à ce moment-là, mais rien n'empêche qu'on peut le vivre en ce moment avec l'enseignement à distance. Parce que si je suis pour faire une activité Padlet avec les élèves sur une lecture, je peux me filmer en train de lire la lecture avant pour préparer les élèves pour que lorsqu'on est là à échanger, tout le contenu nécessaire à cette réflexion-là, les élèves, ils l'ont.
Puis, juste pour faire une extension sur l'idée de maximiser notre temps, c'est cette classe inversée-là, une vidéo, comme par exemple, si c'est vraiment une vidéo qu'on regardait, on peut l'exploiter avec la session en direct, le 30 minutes qu'on va avec les élèves. Puis, si je ne me trompe pas, il y a beaucoup de nos enseignants qui font des rencontres un à un avec nos élèves. Alors, on peut encore davantage maximiser ça. Fait que l'effort que vous mettez dans l'organisation et la préparation de la classe inversée, ce n'est pas perdu parce que vous pouvez l'exploiter en salle, dans salle de classe, en grand groupe et individuellement aussi.
Oui. Et là, dites-moi si je me trompe, mais généralement, un élève, quand il est passif, il a tendance à commencer à faire des niaiseries. Alors, il va commencer à jouer dans son nez, à déranger le voisin, à faire des bruits de pète avec sa bouche pendant que madame parle. Mais ça, ces enfants-là qui font ça en vrai, font aussi ça en ligne. N'est-ce pas? On ne se cachera pas qu'un élève difficile en classe en ligne, ça reste un élève qui est plus difficile. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'un élève est actif dans son apprentissage, il a un peu moins le temps de faire des niaiseries en classe?
Oui, je répondrais en fait sur deux niveaux. Le premier niveau, c'est oui, tu as raison, plus il est actif puis il se sent engagé, c'est clair qu'il va avoir moins le goût de déranger parce que ça lui parle. Puis tout ça revient en fait à la planification dont Vicky a parlé, toute la planification qui vient en amont de la séquence de la classe inversée, puis qui vraiment va aller chercher la créativité de l'enseignant pour qu'il puisse aller vraiment créer des tâches qui sont significatives pour les élèves, qui leur parlent, que ce soit des projets de plus ou moins grande envergure, des scénettes, de rendre les contenus vivants, que ce soit les élèves qui représentent les contenus aux autres élèves sous forme de tutorat, des enseignantes, puisque tu parlais dans la classe de Karine, ou à l'utiliser à la classe inversée pour utiliser ses centres. C'est magnifique. Puis la deuxième chose que j'ai le goût de te mettre de l'avant, en fait, par rapport à ce que tu as dit, c'est que l'élève, justement, là, qui faisait des bruits, puis qui était dérangé, puis l'intercom, tout ça, c'est du temps qui est gagné, parce que toi, ça faisait partie de ta gestion de classe quand tu donnais ta leçon en magistrale, puis tu perdais du temps à rallier ton groupe, à faire de la discipline, à ramener les comportements dérangeants. Donc, tout ça, tu n'as plus besoin de faire ça. Quand tu fais ta vidéo, en fait, tu passes à l'essentiel de ton message. C'est vraiment dans la planification que ça se passe. Qu'est-ce que tu veux dire aux élèves? Quelle démarche tu veux leur montrer? Puis vraiment de prendre les 5 à 7 minutes de vidéo pour aller à l'essentiel. Donc, ta leçon magistrale qui dure peut-être 20 minutes en classe est ramenée à 5-7 minutes. Avoue que c'est magnifique.
Avoué. Vendu.
Je pense encore des questions.
J'ai une question pour toi. Lorsqu'on envoie, disons, une vidéo aux élèves, puis ils vont écouter une vidéo sur le cycle de l'eau. C'est mon sujet de la semaine. Est-ce qu'on leur donne une intention lorsqu'ils l'écoutent? Comme penser aux façons que... pensez à ce que vous voyez dans votre vie de tous les jours en lien avec le cycle de l'eau. Ou... ressortir du vocabulaire ou est-ce qu'on le laisse libre? Est-ce qu'on leur dit c'est quoi le résultat d'apprentissage? Parce que je trouve que parfois, certains élèves peuvent manquer l'essentiel lorsqu'ils écoutent une vidéo.
Ben, tu as raison, en fait, peut-être. Encore une fois, quand les attentes ne sont pas claires, puis tu l'as bien mentionné, c'est important quand on donne la vidéo de mettre des attentes claires. C'est quoi le travail qui est attendu? Puis ça pourrait être de diverses façons. On a parlé un peu de technologie tantôt, ça pourrait être en virtuel. On voudrait que les élèves remplissent un forms. Donc, dans la vidéo, dans Stream, on peut insérer des forms à des moments précis de la vidéo. Donc, par exemple, à 8 secondes, je veux insérer un forms pour savoir qu'est-ce que l'élève sait, par exemple, au sujet qui est à venir dans la vidéo. Et par exemple, en fin de vidéo sur le cycle de l'eau, parce que Jennifer aime ça, on veut savoir, OK, qu'est-ce que tu as appris? C'est quoi le cycle de l'eau? Est-ce que tu pourrais m'en parler dans tes propres mots? Donc, vraiment aller sélectionner des questions dans notre forms où l'élève répond. Ça pourrait être une façon de faire, en fait, pour vraiment ajouter de l'interactivité puis que l'élève ne soit pas passif, un peu comme Mylène parlait tantôt, puis qu'il sache qu'on attend de lui quelque chose, qu'il soit proactif puis qu'il s'engage dans la tâche qui est proposé.
On avait justement donné une formation ThingLink cette semaine, qui est une application en ligne qui permet à l'enseignant de partir d'une photo, d'une image et d'ajouter des liens. Alors là, on peut ajouter dans le cycle de l'eau. Je peux ajouter sur la même photo ou sur la même image un lien à une vidéo YouTube, un lien à une vidéo que j'ai créée comme enseignante, un lien à Forms, et je peux leur dire dans quel ordre les écouter ou les lire, parce que ça peut être des textes aussi. Mais si je leur dis, tu sais, numéro 1, on écoute cette vidéo, numéro 2, vous lisez ce petit texte, numéro 3, vous écoutez la vidéo de madame, numéro 4, c'est un Forms ou un Kahoot ou n'importe quelle autre manière de recueillir des preuves d'apprentissage, de faire une évaluation au service de l'apprentissage. Et ça permet à... ça devient plus interactif, ça varie les sources d'informations et ça me permet de recueillir des preuves d'apprentissage aussi.
Mais là, mesdames, c'est beau tout ça, là. Et vous savez que moi, je vais rester et je resterai une fière advocate pro-partisante de la maternelle jardin. Alors là, c'est beau tout ça, là, mais ça s'adresse à qui? Est-ce que j'ai besoin d'être en 12e année pour faire partie de la clientèle cible de la classe inversée?
Mylène, en fait, c'est vrai qu'on entend souvent que les élèves sont pas assez autonomes, ils sont pas assez matures pour assumer leur responsabilité d'apprenant et jouer un rôle central, surtout à l'élémentaire, qu'on entend ça. Mais... est-ce que c'est en continuant, en fait, de solidifier les liens de dépendance qu'ils entretiennent avec leurs enseignants dans leur classe qu'ils vont être plus autonomes? Puis là, je m'excuse, Jen, je pose encore une question, Mais honnêtement, donc on sait, l'autonomie, c'est pas inné. Moi, j'ai des jeunes enfants à la maison, là, je confirme, ce n'est pas inné. Et c'est pour ça qu'on enseigne les habiletés, les habitudes de travail, nos fameuses achats-achetés, et qu'on les évalue au même titre que les autres matières, n'est-ce pas? Donc, en fait, c'est donc la responsabilité de chacun des acteurs. Puis, tu en as parlé, Jen, à quel point toi, tu étais impliquée comme maman avec ton fils. Ça inclut aussi les parents. Il faut veiller à créer, en fait, ces conditions de développement de cette aptitude humaine qui est essentielle dans la vie d'une société. Là, c'est ça, l'autonomie. Donc, pour reprendre ta question, Mylène, il n'y a pas de limite d'âge à la classe inversée. Elle peut se pratiquer à tous les niveaux d'apprentissage, depuis la maternelle, où l'enseignant peut demander, par exemple, de réfléchir chez eux. Puis ça peut être de réfléchir avec leurs parents, leurs amis, à telle ou telle question, en lien avec une activité vécue à l'extérieur pendant la journée, par exemple, de préparer du matériel pour les rapporter en classe, pour en discuter à l'école, jusqu'à l'université où on parle de séminaires professionnels et on discute des cas apportés par des participants. C'est vraiment une grande variété de clientèle, en fait.
Oui, puis on l'a déjà vu, comme tu avais mentionné, la classe à Karine, c'est une classe de première année. Alors, les élèves ont 5 et 6 ans. Et puis, il y a des façons de le faciliter pour eux autres, comme par exemple, Karine utilisait beaucoup la génératrice des codes QR. Alors, les élèves en salle de classe prenaient le iPad, scannaient le code QR et ça sortait la vidéo de l'enseignante. Puis avec Teams, c'est peut-être encore plus facile parce que l'enseignant va placer le lien dans le Teams. Alors, il faut juste cliquer sur le lien.
Oui, puis je dirais que comme Marie-Josée a dit, comme il y a un paquet de différents modèles, là, en ce temps-ci, on est en apprentissage à distance. Alors, la variété de modèles est un peu réduite. Mais quand on est en salle de classe, rien n'empêche que j'utilise cette pédagogie ou cette classe inversée-là à l'intérieur de la classe ou pendant les centres, pendant le travail, pendant l'appui au devoir, pendant, peu importe, j'ai ces leçons-là qui sont mises à leur disposition et j'ai du temps pour répondre aux questions qui est réfléchie et qui est planifiée.
Toi, Mylène, qui est une grande adepte là, de la réalité augmentée, ça serait une belle façon aussi, en pensant au centre d'apprentissage, d'avoir justement des résolutions de problèmes où l'enfant peut scanner, un peu comme on avait avec HP Reveal, qui n'existe plus, là, mais où l'enfant scanne le problème, puis là, il y a une vidéo avec une solution qui peut lui être proposée ou avec une consolidation, une question pour continuer puis aller plus loin. Donc, vraiment, les possibilités sont infinies.
C'est drôle, comme le commentaire que je dis tout le temps, c'est qu'une bonne pratique en salle de classe est une bonne pratique en virtuel, mais là, ça, c'est l'inverse, là. Ça, présentement, c'est vraiment une bonne pratique en virtuel, sera aussi une très belle pratique en salle de classe.
Oui, je pense que les profs, en ce moment, ils se sont fait, excusez-moi le mot familier, là, mais se sont fait garrocher dans l'enseignement en ligne. Du jour au lendemain, il a fallu qu'on se tourne puis qu'on s'adapte, puis je pense qu'on a été vraiment, vraiment bon à ce niveau-là. Mais là, rien n'empêche que ce qu'on a appris pendant ce temps en ligne-là, ben rien n'empêche que je peux aller chercher ce qui était le plus pertinent pour moi, le mieux pour mes élèves, et adapter ça dans ma vie de tous les jours en salle de classe lorsque l'école recommence. Et ça, scoop, je vous donne un scoop, c'est le sujet de la semaine prochaine.
Ben Mylène, en fait, dans une situation hypothétique là, où on retourne en salle de classe en septembre, en présentiel, ben un enseignant, en fait, pourrait choisir, après l'avoir expérimenté en virtuel ou non, mais de choisir justement un concept bien précis de maths ou toute autre matière-là de science, puisque Jen aime le cycle de l'eau, de faire une vidéo, de l'envoyer à ses élèves par le biais d'une plateforme quelconque, puis de retourner le matin. Et là, on en a parlé, il y a plusieurs modèles, de soit faire des groupes ou travailler vraiment selon un niveau de compréhension de concept. Ça dépend toujours de la notion puis de l'intention pédagogique qui est derrière tout ça.
Un autre point, c'est que lorsqu'on retourne en salle de classe, possiblement au mois de septembre, la vie sera beaucoup différente. Puis les élèves vont pas être en petits groupes, tu sais, sur le tapis en arrière de la classe, dans le corridor. Ils vont être espacés à 2 mètres les uns des autres. Alors, pour faire de la collaboration, ça va prendre encore de la technologie. Et pour varier la journée, comme Mylène, tu avais dit, ta mère travaille au Québec, puis les élèves sont obligés de rester à leur pupitre. toute la journée pour éviter qu'ils touchent plein de choses puis qu'ils se contaminent possiblement d'une manière ou d'une autre. Alors, si on veut qu'un élève passe sa journée à son pupitre, il va falloir penser à des affaires super intéressantes puis de varier les activités en salle de classe d'une autre manière. Parce que souvent, on essaie, tu sais, on les fait venir au tapis, on les met en petits groupes, ils vont à leur pupitre et c'est comme ça qu'on varie les activités, c'est dans l'espace. Mais maintenant, il va falloir les varier d'une autre manière.
Il va falloir qu'on aille aux eaux de Santiago et après ça, dans les catacombes de Paris et après ça, dans le... au Christ Rédempteur à Rio et pourquoi pas l'utiliser, la technologie? Elle est là et je pense que là, on a eu un cours express sur comment ça peut nous aider en salle de classe. Alors, c'est à nous de la maximiser.
Oui. Puis, une idée que je retire de notre conversation, c'est commencer petit, mais commencer et essayer parce que vous allez voir que ça va vous offrir des possibilités infinies.
Parce qu'un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois.
Bien, Mylène, ça me rappelait l'éléphant qui se mange une bouchée à la fois. Ça me dit que souvent, on a de la misère à se lancer dans un nouveau projet parce qu'on voit ça super gros. Mais la classe inversée, ça nous permet vraiment de, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, tu sais, commencer juste un concept de mathématiques puis continuer le reste comme on faisait d'habitude. T'sais, c'est pas nécessaire du jour au lendemain de tout inverser la classe puis on n'enseigne plus jamais en grand groupe. Donc, on peut choisir une petite séquence qui va être vécue en classe inversée puis continuer le reste, en fait, un peu comme on le faisait, évidemment, avec les nouvelles consignes de distanciation sociale qui vont nous être imposées.
Super. Écoute, cet épisode-là me donne des frissons. Merci, mesdames. Merci, Marie-Josée, d'avoir pris du temps dans ta journée occupée pour venir nous jaser. Mesdames, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
C'est bien ça.
C'était toute la classe.
Merci.
Salut.
Merci
d'avoir écouté cette émission. Vos animatrices sont
Jennifer Mansell-Davies,
Mylène Brassard
et Vicky Fauteux. Nous aimerions remercier les directrices des services pédagogiques au Conseil scolaire Viamonde. Les illustrations ont été créées par Francis Fauteux et le logo a été créé par Mylène Brassard.
La musique est de Ralph Grant et elle a été enregistrée au studio de production Guérin.
Suivez-nous sur Twitter à Tout pour et sur Facebook sur notre page Pour toute la classe. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre courriel Gmail à pourtoutelaclasse.gmail.ca.